Bonsoir à tous.
La première parole qu'il a dit à ses disciples au soir de la résurrection, et le carême nous fait monter progressivement vers le grand jour de la résurrection. Ses disciples étaient dans la peur, ils étaient enfermés par peur des Judéens, et à ce moment-là, il est arrivé et leur a dit « La paix soit avec vous ». Le pape Léon a repris ses paroles, ça fait moins d'un an qu'il est pape, je crois. Et les premières paroles d'un pape sont particulièrement importantes. Et il a voulu redire ces paroles du Christ. Il a dit « Que la paix soit avec vous tous, très chers frères et sœurs. Ceci est le premier salut du Christ ressuscité, le bon berger qui a donné sa vie pour le troupeau de Dieu. Je voudrais moi aussi que ce salut de paix entre dans nos cœurs, qu'il parvienne à nos familles, à toutes les personnes, où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre. Que la paix soit avec vous, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée, une paix désarmante, humble et persévérante. Elle vient de Dieu, Dieu qui nous aime tous, inconditionnellement. » Alors ce soir, on va regarder cette septième béatitude. « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Alors c'est intéressant de voir que c'est la septième. Dieu fait tout avec ordre, poids et mesure. Et donc si l'Esprit-Saint a voulu que cette béatitude soit la septième, il y a peut-être ici un indice. Vous vous souvenez que le 7, c'est le chiffre parfait. Mais c'est aussi le jour où Dieu lui-même s'est reposé après la création. Au septième jour, Dieu s'est reposé. Or il y a un lien évident entre la paix et la tranquillité. La paix et le repos. Le sabbat, le fameux jour du repos, eh bien, c'est le jour où Dieu s'est reposé et les Juifs aiment imiter ce repos de Dieu une fois par semaine. On y reviendra. Alors, le pacifique ne se contente pas de se reposer, sinon Jésus n'aurait pas dit « Heureux les artisans de paix ». Il y a un travail de la paix, pas seulement un repos, une tranquillité de la paix. C'est un mot d'ailleurs dans le Nouveau Testament, le mot qu'utilise Jésus quand il dit « Heureux les artisans de paix », c'est un mot assez unique, « Eirene poios ». Eirene, c'est la paix, ça a donné le mot « irénique ». Et puis « poios », ça a donné « poésie », c'est le « faire ». Donc c'est littéralement « c'est bienheureux les faiseurs de paix ». Il ne suffit pas de rayonner la paix, encore faut-il la faire. On fait la paix, le pape François aimait répéter ça, que le pacifique est un artisan. Il y a un artisanat de la paix, au sens où il faut construire des ponts, détruire des murs et construire des ponts. Et donc c'est un appel ce soir à être des bâtisseurs de paix, des gens qui travaillent à la paix dans le monde. Pas seulement des gens débonnaires, qui sont prêts à ce qu'on leur foute la paix, qui n'aiment pas avoir de problèmes, qui n'aiment pas les conflits, qui sont placides, ce n'est pas la même chose. Entre Gandhi et Bob Marley, il y a une petite différence. J'aime beaucoup Bob Marley. Mais disons que voilà, il peut y avoir un mode de paix, je n'ai rien contre Bob Marley, mais la marijuana, par exemple, peut vous donner une paix qui n'est pas forcément celle de l'Évangile. Donc, qu'on vient de distinguer les deux, en tout cas. La paix, disent-ils, alors qu'il n'y a pas de paix. Le prophète Jérémie se plaint de ceux qui, justement, disent la paix, alors qu'il n'y a pas de paix. À ce moment-là, on est des faussaires de paix, on n'est pas des artisans de paix. Pour comprendre ce qu'est la paix chrétienne, il va falloir regarder, comme d'habitude, le Christ lui-même. Saint Paul dit « c'est lui notre paix ». Donc, on va le faire ici en considérant d'abord un épisode de la vie de Jésus où il me semble qu'on va voir deux aspects de la paix qui sont très importants, Jésus apaisé et Jésus apaisant. Parce que pour être un artisan de paix, il faut les deux. Si moi-même dans mon cœur je ne suis pas apaisé, je serai difficilement apaisant. Mais si je me contente d'être apaisé sans rien faire pour les autres, je ne serai pas non plus apaisant. Alors il faut les deux. Alors c'est le fameux récit que je vais prendre ici, ce récit, vous savez, où Jésus marche sur l'eau, rejoint dans la barque. Ça c'est dans Saint Jean, mais je vais prendre plutôt Saint Marc, où Jésus est déjà dans la barque et il dort dans la tempête. C'est à peu près le même épisode, mais exprimé de façon différente. Et on va voir comment Jésus est à la fois le prince de la paix, il est lui-même totalement en paix, et en même temps le pacificateur. Ça commence comme ça. Le soir venu. Intéressant déjà. Le soir venu. L'idée de ténèbres. Quand on est dans l'angoisse, généralement, on est aussi enténébré. L'obscurité, les ténèbres, l'angoisse de l'âme fait qu'on est dans la peur, souvent. Vous voyez, il y a une angoisse de l'obscurité chez les enfants, on le sait bien. Il faut leur mettre une petite lampe de chevet. Mais des fois, ça dure toute la vie. Alors, peut-être pas avec la lampe de chevet, mais au fond, on a une espèce de ténèbres en nous qui fait que on vit d'une angoisse profonde. Alors, au sens mystique, cette toute petite phrase « le soir venu », saint Thomas d'Aquin l'explique en disant « les ténèbres désignent le manque de charité ». Intéressant. Parce que saint Jean dit « celui qui aime son frère demeure dans la lumière ». Donc, si je n'aime pas mon frère, je suis dans les ténèbres. Donc, le soir venu, symboliquement, donc, dans un espace de manque de charité et donc de manque de lumière. Puis vient le symbole de la tempête. Le soir venu survient une violente tempête. Saint Marc, en grec, ça donnerait littéralement le tourbillon d'un grand vent. Le vent se jetait sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Oui, donc c'est pas rien, hein, une tempête de lac. Là, le vent se jette, les vagues se jettent sur la barque commence à se remplir, donc ils ne seront pas bien. Je ne sais pas s'ils savent nager, pas forcément. Hein. Des fois, il y a des gens qui vont à la pêche, ils ne savent pas nager. Hein. Moi, j'ai vu ça en Afrique. Ceux qui partent sur des pirogues, ils ont confiance dans la pirogue. Hein. Selon saint Jean, c'est un grand vent soufflé et la mer était agitée. Matthieu lui dit « la barque était au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire ». Alors saint Augustin, lui aussi, va relier ce symbole au manque de charité. Il va dire « là où la charité se refroidit, les vagues grandissent et la barque est secouée ». Bon, c'est assez clair, hein, dans une communauté ou dans une famille, si l'amour diminue, on va commencer à se disputer, etc. Hein, là où la charité diminue, se refroidit, les vagues grandissent et la barque est secouée. C'est immanquable. Moins il y a de charité, plus les tempêtes font rage. Et à l'inverse, plus il y a d'amour, plus il y a de paix, plus ça se calme. Alors saint Thomas d'Aquin lui disait que la paix ne se distingue pas de l'amour. Quand il était jeune, disons, saint Thomas d'Aquin a évolué. Quand il était jeune, il disait la paix ne se distingue pas de l'amour. Donc c'est très 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 proche. Soit on va regarder un thème qui est vraiment, si on vit de la charité fraternelle, on est quelqu'un qui essaye toujours de réconcilier, qui est un faiseur de paix. Plus tard, il va expliquer que c'est pas exactement la même chose, mais disons que la paix est un effet de l'amour. C'est comme le sillon, vous voyez, si l'amour est là, il y a le sillon qui suit le bateau. Alors la raison en est simple, pourquoi la paix est-elle un effet de l'amour? Parce que l'amour est une force unifiante. Deux personnes qui s'aiment s'unissent. Ben oui. Et donc il n'y a pas de force qui crée plus l'unité dans le monde que l'amour. C'est pour ça que si on cherche la paix, il faut remonter en amont même de la paix, où en est l'amour entre nous. On se dispute tout le temps, il y a peut-être un problème en amont. Et c'est pour ça qu'il y a un mystique qui dit « le parfait sabbat se trouve dans la charité ». C'est très bon, on parlait tout à l'heure à table du sabbat, comment les juifs vivent le sabbat. Là, ce mystique qui dit « le parfait sabbat se trouve dans la charité ». Si le cœur est en paix, on est en paix ensemble, alors on vit vraiment le sabbat voulu par Dieu. Et pendant ce temps-là, alors que tout est agité autour de lui, Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Il a un bon sommeil, hein, ça c'est pour tous les insomniaques. Il y a de quoi être un peu jaloux là. Jésus, il est au milieu de la tempête, tranquille, il dort. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ». C'est sûr que la barque est en train de tanguer, l'eau entre même dans la barque, le vent est en furie. Jésus dort « as cool as a cucumber ». Donc les disciples, ils ne l'ont pas réveillé tout de suite. Ils disent, va bien se réveiller le gars, c'est pas possible. Puis voyant qu'il ne se réveille pas, ils le réveillent, on aurait fait pareil. Mais ils ajoutent quelque chose qui n'est pas une bonne idée. Ils lui disent, cela ne te fait rien. Si ça lui faisait rien, qu'on ait des problèmes, il ne serait quand même pas venu dans le monde pour mourir sur une croix ensuite pour nous. Donc ça, c'est un truc à pas dire au Seigneur, c'est pas sympa, hein, cela ne te fait rien. Comme si ça lui faisait rien, notre vie. Alors, premier enseignement, peut-être, que pour être pacifique, il faut être pacifié. Jésus, on le sait, va calmer la tempête, mais d'abord, lui, il est calme au milieu de la tempête. Quand vous êtes dans la tempête, il y a deux manières dont le Seigneur va vous exaucer. Soit il va vous donner le calme au milieu des épreuves, soit il va régler le problème. Des fois, il ne règle pas le problème, mais il règle votre problème qui est d'être en paix avec cette situation. Et donc, il y a les deux modalités ici. Avoir le cœur en paix et ensuite avoir effectivement une situation de paix. Et donc là, on a le premier aspect qui est manifesté à travers le repos de Jésus, qui est une véritable prédication en lui-même. Jésus, là, rien qu'en se reposant au milieu de ses disciples, au milieu de la tempête, leur prêche la paix. C'est pour ça que Fénelon dit « Ne cherchez que Dieu et vous goûterez la paix ». Jésus, lui, ne cherche que la volonté de son Père et donc il est en paix, quoi qu'il arrive. Maître Eckhart disait « Autant on a pénétré en Dieu, autant on a pénétré dans la paix. Celui qui a son moi en Dieu a la paix, celui qui a son moi hors de Dieu n'a pas la paix. » Donc là, on a vraiment un principe spirituel. Si je veux avoir la paix du cœur, il va falloir que je place mon moi en Dieu. Etty Hillzoom, une grande mystique à sa manière, alors qu'elle subissait la persécution nazie, disait « Plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura dans ce monde en ébullition. » Alors oui, on est dans une période de guerre, les guerres se multiplient, se démultiplient, c'est flippant. Et il n'empêche que ça, c'est vrai. Plus il y a de paix dans les êtres, plus il y aura de paix dans le monde. On se demande ce qu'on peut faire pour l'Ukraine, l'Iran, Gaza, le Liban. Déjà, on peut essayer de cultiver la paix intérieurement. Saint Séraphim de Sarov, un grand mystique russe, disait « Veille sur ta paix intérieure et une multitude se convertira à tes côtés. » Donc déjà, de veiller moi sur ma paix intérieure et de ne pas me laisser agiter outre mesure par tout ce qui pourrait m'agiter. Alors là, ils disent « Maître, maître, nous périssons, cela ne te fait rien. » Jésus se lève, il parle à la tempête, et là, c'est le deuxième aspect de la paix. Non seulement il est en paix, mais il est pacificateur. À ce moment-là, il parle à la tempête, comme on parle à un démon, et lui dit « Silence, tais-toi. » Littéralement, d'ailleurs, c'est « Silence, muselle-toi », comme si on parlait à un chien même. C'est ce même mot qui est employé quand Jésus fait un exorcisme. Quand il dit au démon « Tais-toi », littéralement, c'est donc « Muselle-toi ». Et là, c'est à la tempête qui parle, comme si elle était démoniaque, cette tempête. Elle exprime la puissance démoniaque à l'œuvre, en fait. Là, on a vraiment le Seigneur qui manifeste qu'il est prince de la paix. J'aime beaucoup cette phrase de Saint Bernard qui dit « Le Dieu tranquille tranquillise toute chose ». Si je suis tranquille dans mon cœur, je vais avoir plus de chances de tranquilliser toute chose autour de moi. Pour ça que Jésus dit « Quand vous entrez dans une maison, dites paix à cette maison. » J'aime bien faire ça quand des gens m'invitent, j'arrive dans la maison, je dis « Paix à cette maison. » Je le fais un peu littéralement de temps en temps, puisque Jésus l'a dit, ben on le fait. Saint Ambroise commente « Jésus veut que nous soyons des messagers de la paix et que notre première entrée dans une maison soit consacrée par les bénédictions de la paix. » Donc faites-le comme ça, ça fait genre, hein, ça fait un petit quelque chose. Vous arrivez, vous dites « Shalom, paix à cette maison. » Donc vous voyez, il se contente pas ici d'être dans le sommeil au milieu de la tempête, d'être tranquille, quoi qu'il arrive. D'être océan de paix, d'être notre paix. Ici, il va lui-même nous donner la paix qui émane de son cœur. Et c'est ça la paix chrétienne, c'est une participation à la paix du cœur du Christ. « Je vous laisse la paix, dit Jésus, je vous donne ma paix. » Donc c'est la paix de son cœur qui fait vraiment la caractéristique de la paix chrétienne. Parce qu'il n'y a pas que le privilège des chrétiens d'être en paix, hein. Beaucoup parlent de la paix. Mais la caractéristique du chrétien, c'est d'avoir la paix du Christ lui-même, de participer par la grâce à la paix du cœur de Jésus. Alors on va essayer de regarder ces deux aspects. La paix que l'on fait et puis la paix dont on vit. Être en paix, faire la paix. Je commence par le deuxième aspect, la question d'être artisan de paix. On est dans un monde de violence de plus en plus, et c'est effectivement très inquiétant. Donc ça mérite une petite réflexion. Je me disais quand même faire une petite réflexion sur la question de la guerre aujourd'hui, d'avoir deux ou trois idées en place, parce que c'est très difficile de discerner, de réfléchir sur ce concept de non-violence. Alors, quel est le concept de Gandhi, évidemment, c'est tardif, hein, l'expression non-violence, c'est la traduction française d'un mot hindou. Mais l'idée, elle vient de loin. Quand, devant Pilate, Jésus ne se défend pas, il exprime ici la non-violence. Il renonce à la violence, non par faiblesse, mais par choix. Il dit à Pilate, « Penses-tu donc que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait sur le champ plus de 12 légions d'anges ?» Donc Jésus a clairement choisi ici d'être pacifique à son propre détriment. Il sait qu'il va en payer les conséquences, mais il refuse de répondre à la violence par la violence, pendant tout le mystère de sa passion. Ça peut être cette année une manière de contempler, de faire le chemin de croix, de voir comment Jésus ne répond pas à la violence par la violence, alors qu'il le pourrait, il est tout-puissant. Il est le Dieu des armées. Mais il y a un jeu de mots ici, vous voyez, le Dieu des armées, vous pouvez aussi, en deux mots, ou avec une apostrophe, hein, ou sans apostrophe d'ailleurs. Certains pères de l'Église, du coup, ont pris ça très à cœur, comme Origène, et ont conclu que la violence est interdite aux chrétiens. Origène est très radical, il dit « Le chrétien ne doit tirer l'épée, ni pour faire la guerre, ni pour faire valoir ses droits, ni pour aucun autre motif. Ce précepte de l'Évangile ne souffre aucune exception. » Donc là, Origène, lui, il serrait la main à Gandhi, vraiment dans la non-violence absolue. Alors l'Église est-elle fidèle à l'Évangile ou pas ici? Je pense que oui, parce que j'ai prié Pierre pour que ta foi ne défaille pas. Jésus a dit ça. Donc je fais confiance à la prière de Jésus pour penser que le magistère de l'Église depuis 2000 ans ne s'est pas trompé dans l'interprétation de ce qu'a dit Jésus, même si on verra, même si certains ont dit « mais peut-être qu'on est passé à côté de la radicalité de l'Évangile ». Toujours est-il que l'Église n'a pas suivi la radicalité d'un Origène, par exemple. Elle reconnaît le droit à la légitime défense, même par les armes. Donc, il y a dans l'Église une théorie du fait qu'on peut répondre par les armes si on est attaqué. Mais il y a trois grandes conditions qui reviennent tout le temps dans la doctrine de l'Église. Il faut que l'attaque soit imminente, c'est-à-dire que la menace soit instantanée et irrésistible. L'ennemi est en train d'attaquer. Il faut que la menace ne puisse pas être contrée autrement. C'est-à-dire que tous les autres moyens possibles que la guerre aient été essayés, notamment la diplomatie, bien sûr, toute autre alternative pacifique a été essayée, la guerre est devenue nécessaire. Et il faut que ça soit proportionné, c'est-à-dire que le préjudice infligé n'excède pas ce qui est nécessaire pour repousser la menace. Notamment la possibilité de ne pas confondre les combattants et les non-combattants. Alors, il y a des cas, évidemment, où la menace, elle est imminente, nécessaire, et il va falloir se battre devant Hitler qui a envahi la Pologne et qui a déjà déporté les Juifs. Il n'y a pas d'issue. Il était déjà en train d'envahir, déjà en train de déporter, il tue à grande échelle. Il fallait le contrer. Mais la contre-violence, déjà, on est obligé de reconnaître ça, quoi qu'on pense de toutes ces situations. À chaque fois qu'on est dans un cas concret, ça devient plus difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir quelques principes pour au moins pas perdre totalement la boussole. La contre-violence, c'est jamais la solution à long terme. L'histoire le prouve, la violence appelle la violence. C'est une question de temps. Tu as répondu à la violence maintenant. De toute façon, dans 30 ans, ça va repartir encore plus violent. Le sang appelle le sang, ce qu'on appelle la spirale de la violence, malheureusement, et c'est démoniaque. Jésus l'a dit à Pierre, au moment de son arrestation, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. » Donc s'il n'y a pas de diplomatie, si le dialogue avec l'ennemi ne cherche pas à changer l'ennemi en partenaire, alors les victoires violentes d'aujourd'hui sont lourdes des défaites de demain. D'ailleurs, même le cas de la légitime défense, qui a été donc maintenue depuis 2000 ans dans l'Église, est aujourd'hui devenu problématique parce que le monde a changé, parce que les armes ne sont plus les mêmes et les conséquences prévisibles non plus. C'est pour ça qu'en 1963, au lendemain de la crise des missiles à Cuba, le pape Jean XXIII disait, sans détour, « Il devient humainement impossible de penser que la guerre soit en notre ère atomique le moyen adéquat pour obtenir justice d'une violation de droit. » Et donc, c'est comme si les choses ont changé, les armes sont devenues tellement puissantes qu'il devient impossible de penser même la légitime défense, semble dire Jean XXIII. Ça rejoint Martin Luther King, c'est sa dernière parole la veille de son assassinat. Les hommes n'ont plus le choix entre la violence et la non-violence en ce monde, c'est la non-violence ou la non-existence. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et Jean-Paul II lançait cet appel, puissent les hommes apprendre à lutter sans violence pour la justice. Alors la non-violence, ce n'est pas la passivité pour autant, hein. C'est un refus, non pas de se défendre, mais un refus de la brutalité. C'est une protestation contre la logique qui transforme la légitime défense en légitime violence. Et j'aime bien Gandhi, qui a été impressionné par l'évangile et la parole de Jésus. Moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Il y a une anecdote, à Londres, il faisait des études de droit. Et puis il y avait un professeur, un certain Peters, blanc, hautain, incapable de supporter l'étudiant indien, incapable de supporter Gandhi le croise dans les couloirs sans baisser les yeux. Et un jour, à la cafétéria de l'université, Gandhi s'assoit près de lui. Alors le professeur, sarcastique, lui lance « Monsieur Gandhi, vous ne comprenez pas, un porc et un oiseau ne mangent pas ensemble ». Gandhi a répondu calmement, « Pas de problème, professeur, je m'envole. » Vous voyez, réponse ironique, non-défense, non-violente, mais en même temps très forte. Donc il le remet en fait devant sa conscience, il le remet devant la vérité pour qu'il puisse changer. C'est ça en fait le but de la non-violence. Si on frappe sur la joue droite, tend la joue gauche, c'est-à-dire laisse à l'autre le temps de prendre conscience. Essaye de voir comment tu peux le retourner sa conscience. C'est Lanza del Vasto qui disait ça, le retournement de l'adversaire, c'est la véritable fin de la non-violence. Alors j'attire votre attention sur quelque chose, un point très délicat qu'on entend dans les médias, je ne vais pas faire de politique, hein, ce n'est pas mon but, mais quand même, étant donné la gravité de la situation et qu'on entend tout et n'importe quoi, il faut avoir quelques repères. On a dit donc qu'il faut que la menace soit effective, que tout autre moyen ait été utilisé, que la réponse soit proportionnée. On entend aujourd'hui des gens dire oui, mais on pourrait penser, il y a le concept de guerre préventive, comme Hitler qui arrive, il vient d'envahir la Pologne, on est dans une guerre préventive, là on est obligé de s'opposer pour éviter le pire. Et aujourd'hui, on parle de guerre préemptive. Et là, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de la guerre en Iran. Les autorités israéliennes ont justifié les frappes comme une attaque de défense préemptive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'appuie sur des renseignements crédibles selon lesquels l'Iran était à quelques semaines seulement de développer l'arme nucléaire. Alors ça pose des questions philosophiques qu'il faut au moins essayer de poser calmement. Est-ce que là, on peut distinguer préventif et préemptive ? Il y a quand même une distinction qui, au passage, va faire sauter le droit international. C'est-à-dire que la guerre préemptive, elle suppose la possibilité d'une attaque, mais pas l'attaque réelle. Elle est, étant donné que l'attaque est possible, on pense qu'elle va avoir lieu. Mais ce n'est pas exactement, si on veut être rigoureux, ce n'est pas la même chose qu'une attaque imminente et certaine. On est dans une supposition. Donc on n'est pas exactement ici dans la même chose que ce que propose le droit international jusqu'à présent. On confond ce qui est et ce qui pourrait être. Déjà, au moins poser ça. Ensuite, la guerre préemptive, elle remet en cause le droit international qui parle de possibilité de légitime défense en cas d'attaque armée. Donc là, on n'est pas dans ce cas-là. Donc prenez en fait toutes les guerres récentes et revisitez-les avec ces critères que donne l'Église. Vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup qui semblent légitimes ici. Donc certains appellent justement à une réinterprétation de l'article 51 du droit international. Certains disent que le droit de l'Église est obsolète. Oui, à voir. Donc je ne vais pas développer davantage, mais regardez les arguments. Vous voyez, quand on écoute les médias, tout ça, essayons de copter les arguments et de les penser, tout simplement. Est-ce que ça tient? Est-ce que c'est la même chose de dire « je veux l'éradication d'Israël » Est-ce que c'est la même chose d'attaquer directement Israël? Autre chose est une attaque rhétorique, autre chose est une attaque armée. Et à chaque fois qu'on va faire des glissements et qu'on va prendre une attaque rhétorique pour une attaque armée, on n'est plus dans la même chose, en tout cas. Après, on peut discuter de la réponse à donner, mais en tout cas, on n'est plus exactement dans la même chose. Donc, je pense que on a besoin de clarté. Comme on disait tout à l'heure, l'épisode de Jésus dans la tempête commence par le soir venu. Et donc, quand nos esprits sont enténébrés, on n'arrive plus à discerner et on s'angoisse et on n'arrive plus à voir où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, il faut essayer de garder autant que possible quelques principes clairs et d'essayer de penser le réel. Et puis après, les situations sont ce qu'elles sont et parfois, il n'y a plus que la prière. Au moins, ce que dit Pascal, hein, je ne suis qu'un roseau, mais un roseau pensant. Vous pouvez m'écraser, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de penser. Et Pascal qui dit, à propos de la prière, « Dieu a établi la prière pour communiquer à ses créatures la dignité de causalité. » Donc c'est vrai que là, c'est intéressant que par la prière, j'ai la dignité de causalité, c'est-à-dire que je peux avoir un effet réel par la prière. Et c'est pour ça que tout cela, étant donné la situation, si on veut être des pacifiques, on a déjà à être des hommes et des femmes de prière et de prier réellement pour la paix. Alors je vous propose de le faire avec ces paroles qu'on dit à chaque messe. « Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Voilà ce qu'on peut faire pour la paix, en quelques mots. Il y a plein d'autres choses, mais on en a déjà parlé, en fait, à travers la miséricorde des doux. Chaque fois que je suis doux, je suis un artisan de paix. À travers la miséricorde des miséricordieux, de ceux qui pardonnent, par exemple. Chaque fois que je pardonne, je travaille pour la paix. Donc, on a déjà visité ce thème plusieurs fois. Maintenant, je voudrais revenir sur la paix du cœur. Parce que ce n'est pas facile de conserver la paix du cœur, spécialement aujourd'hui, avec le stress dans lequel on est souvent. Le monde est particulièrement stressant, alors un peu moins en Suisse quand même, mais quand même. Et le stress, ça peut s'avérer très dangereux. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le stress est un des facteurs les pires pour la santé. Donc si vous voulez être en bonne santé, il faut être moins stressé. Alors je vous propose d'analyser d'abord cette cause de stress. Bon, déjà, on va faire un diagnostic. Et puis ensuite, je vous propose un remède. Alors, cette cause de stress, il me semble que la première cause de stress, c'est la peur de manquer. On vit dans un monde d'hyperconsommation. On a pris l'habitude de tout avoir en abondance, tout et tout de suite. Et donc, tout d'un coup, on risque de manquer de pétrole. Et là, on stresse. À raison, hein. Mais je note simplement que c'est quelque chose, un ressort très fort chez nous. Nous nous inquiétons très vite de manquer. Et on peut avoir peur de manquer d'argent, même quand on en a beaucoup. C'est la fameuse phrase de Rothschild que je cite souvent, hein, quand on lui demande combien d'argent faut-il pour rendre un homme heureux, il répond juste un peu plus. Et j'ai toujours l'impression que je manque. La deuxième source de stress, c'est l'accélération. Tout va de plus en plus vite et ça crée du stress. La vitesse, bien sûr, augmente le stress. Passer son temps à courir pour rattraper le temps, c'est plus stressant, bien sûr, que marcher paisiblement et faire tranquillement une chose après l'autre. Le pire, c'est quand vous avez l'impression d'être un hamster dans sa roue, c'est-à-dire qu'en fait, vous courez pour faire du surplace. Vous courez sur le tapis roulant dans une course où le seul but est de ne pas être éjecté du tapis roulant. Et vous vous demandez si cette course a vraiment du sens, mais vous n'avez pas le choix. Vous allez être déclassé si vous ne continuez pas de courir. Ça, c'est une deuxième grosse cause de stress, l'accélération du monde dans lequel on vit. Troisième cause de stress, la quantité. La quantité fatigue, la qualité repose. Et c'est particulièrement évident avec les phénomènes de foule. Dans un monde de plus en plus urbanisé, on s'est habitué aux foules. Mais la foule, c'est stressant quand même. Alors Genève, c'est assez calme. Par rapport à d'autres coins de la Suisse, c'est déjà très, très, très vivant. Donc, mais si vous êtes à Londres, à New York, à Paris, et que vous prenez le métro, quel stress! Moi, j'ai grandi à Paris, je m'y suis habitué, mais je me rendais pas. Maintenant que j'y retourne, venant de Genève parfois, je me dis, mais j'ai vécu ça, matin, soir, d'être comme des sardines dans un truc, avec des... Ah, c'est super stressant, en fait. Et c'est le phénomène des mégapoles. C'est très, très impressionnant. En 1800, il n'y avait qu'une seule ville au monde de plus d'un million d'habitants. C'était Londres. Aujourd'hui, on a plus de 500 villes de plus d'un million d'habitants. On a même des villes comme Mumbai, qui est la plus grande du monde, je crois, avec 37 millions d'habitants. Après, vous avez Tokyo, 35 millions. Mexico, Tokyo, 36 millions. Mexico, 35 millions. Et oui, forcément, ça crée les foules, crée de la quantité. La quantité rend vite la vie insupportable. Pensez les embouteillages. Il y a des pays qui doivent changer de plaque. Les plaques paires peuvent rouler un jour, les plaques impaires le lendemain. C'est spécial quand même. Quatrième cause de stress, les choix multiples. Aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de choix proposés qu'avant. Alors en première analyse, on pourrait dire que c'est super, ça crée plus de liberté. Je vais m'acheter un dentifrice, j'en ai 50. Pourquoi ils ne font pas menthol et non menthol? Vous avez... Ça va. Voilà, vous dites lequel je vais prendre. Alors, on peut dire c'est super, j'aime bien faire du shopping et tous ces choix sont extraordinaires. Mais en même temps, il faut ouvrir plus de choix, plus d'indécision. Et il faut au moins le noter, il y a des situations où c'est pas grave, dentifrice, on s'en fiche. Vous êtes au restaurant, savoir si vous allez prendre le porc chop suey ou le porc aux ananas ou le porc aux noix de cajou, ça va. C'est win-win, hein. De toute façon, vous allez manger quelque chose de bon. Après, vous pouvez être dans des choix cruciaux, des choix cornéliens. Quoi que vous fassiez, ça va être terrible. Il faut prendre une décision. Jean Valjean. Si je ne me dénonce pas, je vais porter le poids de la condamnation d'un inconnu à ma place toute ma vie. Si je me dénonce, je laisse Cosette, je laisse Francine. Francine, pas Francine. donc à chaque fois, de toute façon, c'est vraiment lose-lose. Alors là, vous êtes dans un stress monumental. Cinquième cause de stress, c'est la peur du danger en général, c'est sûr. Hein. Ça, c'est pas nouveau, mais il y a aujourd'hui des peurs nouvelles. Tous les jours, il y en a de nouvelles. Une des dernières, ça s'appelle FOMO, Fear of Missing Out. Donc, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Regardez votre téléphone, les nouvelles tout le temps, de peur d'avoir raté un épisode. Donc, en tout cas, on est dans un monde qui crée de l'anxiété. J'aime bien ce passage de Boris Vian dans L'Arrache-cœur, où il imagine Clémentine, c'est une maman hyper anxieuse, et ses enfants sont tranquillement en train de jouer dans le jardin, mais elle s'imagine le pire, parce que c'est toujours très imaginatif la peur. En ce moment, ils peuvent être tombés dans un puits, avoir mangé des fruits empoisonnés, avoir reçu une flèche dans l'œil si un enfant joue sur le chemin avec une arbalète. Attraper la tuberculose si un bacille de coq se met en travers, perdre connaissance en respirant des fleurs trop parfumées, se faire piquer par un scorpion, tomber d'un arbre, courir trop vite et se casser une jambe. Et il en fait sur 3 pages comme ça. Bon, c'est du Boris Vian, hein, ça tourne à l'absurde. Mais on voit bien l'anxiété. Puisque bien sûr, en soi, c'est possible. C'est pas imminent et probable, mais c'est possible. Et donc l'imaginaire va s'emparer de ça, le démon va agir un petit peu aussi souvent, et à ce moment-là, on va partir totalement en live. L'imagination, c'est la folle du logis. Hein. Il y a suffisamment de dangers réels pour ne pas s'en inventer trop. Alors, là, on est sur la 5e cause de stress, 6e, après je vais venir sur le remède, hein, rassurez-vous. Parce que là, je vous sens de plus en plus angoissé. Là, oh là là. C'était pas sur la paix ce soir. 6e cause de stress, être sous le feu des critiques. Alors là encore, c'est de tout temps. Mais avec Internet, avec la perte de la vie privée, avec l'hyperconnexion, ça s'est décuplé. Si vous êtes critiqué sur le web, c'est tout de suite mondial et ça ne s'efface pas. Et en plus, comme les gens peuvent vous insulter sans dire leur nom, ils y vont largement. Donc ça, c'est une grosse cause de stress quand vous êtes critiqué, vous avez un procès, vous avez des choses comme ça. C'est extrêmement stressant. Enfin, 7e cause de stress, last but not least, la peur de la mort. Ou du moins la peur de ne pas avoir vécu avant de mourir. En fait, des fois, ce n'est pas que j'ai peur de mourir, c'est que, est-ce que j'ai vécu ? La vraie question pour certains, ce n'est pas est-ce qu'il y a une vie après la mort, c'est est-ce qu'il y a une vie avant la mort ? On a 4000 semaines à vivre, en gros, si on vit 80 ans, 700 000 heures, c'est vite passé. Et effectivement, ça a de quoi être un petit peu angoissant quand on y réfléchit. Alors, mon remède, je ne vais pas vous laisser comme ça. Mon remède, vous pouvez le deviner pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est le psaume 22, bien sûr. Le psaume du bon berger qui va nous donner les 7 antidotes aux 7 causes de stress que j'ai énoncées. Henri Bergson, le grand philosophe, disait... De tous les livres que j'ai lus, aucun ne m'a donné autant la paix que le psaume 22. Alors je vais vous le lire, pour moi c'est un antidote. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur en la longueur des jours. Vous voyez, je vous disais que la première cause de stress, c'est la peur de manquer. Alors, David dit, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Et en hébreu, vous pouvez traduire aussi au futur ici, parce que c'est un temps particulier qu'on appelle Benoni, l'incomplet. Vous pouvez traduire « je ne manquerai de rien ». Donc le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien et je ne manquerai de rien parce qu'il s'occupe de moi. Il est mon berger. Ensuite, on disait qu'on est stressé parce qu'on court toujours. Alors qu'est-ce qui fait le bon berger ? Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes vertes, il me fait reposer. Vous voyez que c'est un verbe actif, il m'oblige à me reposer. C'est ce qu'on appelle le commandement du sabbat. C'est quand même extraordinaire, une religion qui a inventé un commandement, non pas pour bosser, mais pour se reposer. C'est sympa comme religion, a priori. Et en fait, le texte est moins sympa. Exode 35, 1. Moïse rassembla toute la communauté israélite et dit « C'est ce que le Seigneur a ordonné de faire. Quiconque travaille ce jour-là sera mis à mort. » Voilà, c'est moins cool. Mais en même temps, si on l'interprète spirituellement, on comprend. Quiconque ne se repose jamais, ne prend pas du temps pour refaire son âme et pour se remettre dans les mains de Dieu, il va mourir en fait. Alors soit d'un burn-out, soit d'une mort au travail. Les Japonais ont même inventé un mot pour ça, karoshi. Mort au travail, ça veut dire en japonais. C'est un accident cardiovasculaire, par exemple, ou une dépression qui conduit au suicide, ou que sais-je. Mais ils vont désigner ça sur le terme mort au travail. Si tu ne te reposes pas, ou tu vas mourir dans ta vie spirituelle. Tu vas, oui, symboliquement ou réellement, tu vas mourir. Donc, le Seigneur est mon berger, il me fait reposer. Ensuite, on a parlé de l'angoisse de la quantité. La quantité fatigue. la qualité repose. Eh bien, où est-ce qu'il me fait reposer? Sur des prairies d'herbes verdoyantes. La qualité repose. Donc, il me fait reposer dans un lieu reposant. L'homme a été fait pour vivre dans un jardin à l'origine. Dostoïevski disait « La beauté sauvera le monde ». On a besoin de beauté pour trouver la paix. Ensuite, on a dit que quatrième cause de stress, c'est les choix multiples et l'indécision, le problème des 30 dentifrices. Eh bien, le Seigneur me dit « Il me guide sur la bonne voie pour l'honneur de son nom ». J'aime bien la traduction de Peggy « Il a mis mes pas dans la bonne direction ». Et parfois, vous êtes stressé, vous dites « Est-ce que je dois déménager ou pas? Est-ce que je dois changer de boulot ou pas? Est-ce que je dois me marier avec un tel ou une telle ?» Et puis le Seigneur dit « Il a mis mes pas dans la bonne direction ». Confie ta cause au Seigneur, réfléchis, prends conseil, prie, sois prudent. Et ensuite, vas-y. Et il le fait pour l'honneur de son nom, ajoute David. C'est-à-dire qu'il en va de son honneur, puisque je suis sa brebis. Il serait un bien mauvais berger s'il ne m'accompagnait pas et que j'allais me planter. Donc tous mes choix, il faut que j'aille lui remettre. Il est mon berger, et pour l'honneur de sa qualité de bon berger, il va m'accompagner et me permettre de faire les bons choix. Comme c'est dommage de s'en apercevoir trop tard. Cinquièmement, on a dit que la cinquième cause de stress, c'est la peur dans son aspect imaginatif. Alors le psalmiste dit, même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Oui, c'est possible. Bien sûr, il peut y avoir des problèmes. Mais même si ça devait arriver, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Toujours ce principe fondamental, quoi qu'il arrive, si tu es avec moi, ça se passera. Benoît XVI disait, qui passe avec le Seigneur dans les ravins de ténèbres, de la souffrance, de l'incertitude et de tous les problèmes humains, se sent en sécurité. Tu es avec moi. Telle est notre certitude, celle qui nous soutient. Vous noterez au passage le passage du « vous » au « toi ». Le Seigneur est mon berger, puis maintenant c'est toi. Tu es avec moi. Je termine vite, parce que je vois qu'on est en train de vous servir les tisanes, ce qui manifeste que j'ai trop parlé. La critique, on a dit, voilà. Qu'est-ce que vous faites avec les personnes impolies, les personnes qui vous insultent et qui sont méchantes, et dès que vous faites un truc de bien, ils ont toujours un truc à redire pour vous rabaisser. Eh bien, vous vous en occupez pas. Il prépare une table pour moi devant mes ennemis. C'est le Seigneur lui-même qui s'en occupe. Comme si le Seigneur prépare une table devant les ennemis et dit « This is my guy ». C'est mon homme, c'est mon bien-aimé, c'est mon David. Vous savez que David, en hébreu, c'est « Daoud », ça veut dire le chéri, le bien-aimé. C'est mon chéri, c'est ma chérie. Et donc, je m'occupe de lui. Et enfin, on a dit qu'il y a la peur de la mort, la peur du jugement, la peur de rater sa vie, la peur de ne pas vivre avant d'avoir vécu. Eh bien, David nous dit « Sûrement, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je demeurerai dans la maison du Père, dans la maison du Seigneur pour toujours. Je reviendrai dans la maison du Seigneur en la longueur des jours. » Vous voyez cette assurance de David, incroyable. Alors moi, si j'étais psychiatre, et que je voyais des gens en dépression, je leur dirais, voilà, du Xanax ou du Lexomil avant de vous coucher, et puis un psaume 22, à prendre avec. Ce psaume 22, je vous recommande cette semaine de l'apprendre par cœur. Essayons d'être des pacificateurs, de prier pour la paix. Mais un petit moyen très simple pour avoir le cœur en paix, c'est peut-être d'apprendre par cœur ce psaume 22. Les premiers chrétiens l'apprenaient par cœur au moment du baptême. Et je termine avec cet exégète anglais qui dit de façon savoureuse, c'est bien le rossignol des psaumes, petit et de plumage ordinaire, mais son chant a rempli tout l'air du monde entier d'une joyeuse mélodie. Béni soit le jour où ce psaume est né, car il a calmé à lui seul plus de douleur que tous les philosophes du monde. Amen. Bonne discussion.